Bienvenue dans le Macané Plus, qui vous apporte le meilleur de la vaste archive pédagogique de l'évangéliste guérisseur, auteur à succès et pasteur de la méga-église, Dag Uwemiers.
Je me crois en Dieu et ouvrir nos cœurs afin que Dieu nous parle comme il a préparé son serviteur de nous enseigner sa parole. C'est l'enseignement de la parole qui introduit sa puissance dans nos vies. Et je crois que nos vies ne seront jamais les mêmes en tant qu'une église. S'il vous plaît, restons debout et accueillons l'évêque alors qu'il vient administrer la parole.
Once again, I don't know where it comes from, don't know where it comes from, oh, don't know where, but let it blow, but let it blow over me, yeah, yeah. Oh, 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 sweet wind, yeah. Come and blow over me, oh. There's a wind that blowing, there's a wind that blowing all across the land. Oh, it is a fragrant breeze, blowing once again, I don't know where it comes from, don't know where it comes from, and I don't know where it goes, don't, but let it blow over me.
Alléluia, alléluia. Prions, Père, merci pour un matin comme cela. S'il te plaît, dirige-nous, influence-nous par ton esprit et que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dise Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Regardez 1 Corinthiens 14. Verset 29. 1 Corinthiens 14, 29. 1 Corinthiens 14, 29. Nous allons lire ensemble. Il dit, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et les autres jugent. Qui croit qu'il y a des prophètes aujourd'hui? Donc, quand un prophète parle, c'est notre devoir de juger et voici ce qu'il dit est vrai. Maintenant, quand il s'agit des prophètes, nous avons de bons exemples comme Jean qui est le révélateur. Dieu lui donne une révélation surnaturelle. Il a eu des rêves. Et c'est lui qui écrit les livres d'Apocalypse. Et Dieu lui a donné un message pour les sept églises. Pergame, Laodicée, Éphèse, l'église de Sardis. Il y avait sept églises. Ils étaient tous dans le même endroit, juste à côté de la côte. Et Jean lui-même vivait dans une de ces villes. Et après, il était amené dans une île, juste à côté d'une de ces villes. Dieu lui a donné des visions et des rêves pour ces sept églises. Et les gens croient que ces lettres-là est pour l'église dans l'avenir. Et dans le monde aujourd'hui, nous avons des prophètes qui parlent et qui enseignent des choses qui peuvent contribuer à notre connaissance et qui peuvent aussi jeter plus de lumière sur des choses que nous acceptons comme de la lumière et de la vérité. Vous m'écoutez? Par exemple, un bon exemple, c'est Kenneth Hagin. Kenneth Hagin est un prophète. Et parce que les prophètes, vous voyez, les prophètes voient des visions, ils ont des rêves. Et il y a certaines personnes, il y a des visions de rêves, des visions de révélations. Tu peux avoir une vision, tu es assis sur une chaise et puis soudainement tu vois un ange. Il y a des anges ici. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a des anges partout. Ces anges-là, vous ne voyez pas parce que vos yeux ne sont pas encore vus pour voir comme il faut. Mais si vos yeux sont ouverts, vous allez voir les choses comme ça. Mais les prophètes, c'est leur ministère. Ils voient des choses. Et des fois, ils voient jusqu'à ce que ça devienne un enseignement. Vous comprenez ce que je dis? Mais ces choses doivent être basées sur la parole de Dieu. Kenneth Hagin, par exemple, est un bon exemple de quelqu'un qui a eu des enseignements comme ça. L'Éternel lui apparaît et puis l'Éternel lui dit, je vais te montrer comment le diable attaque les chrétiens d'aujourd'hui. Et l'Éternel l'avait montré. Si tu as l'opportunité d'acheter un de ces livres-là, et vous serez bénis. Par exemple, ce livre dont je parle, c'est « J'y crois en vision ». L'Éternel lui avait parlé beaucoup de choses concernant le ministère. Et c'est la même parole que nous avons aujourd'hui, mais ça jette encore plus de lumière. J'ai un livre ici, par un autre prophète, qui parle et il est en train de jeter de lumière, vous me comprenez, sur un sujet que nous connaissons déjà. Et ce sujet, c'est la loyauté. Amen. Donc, je partage avec vous sur cet arrière-plan et dans cette vision qu'il a eue, n'est-ce pas? Et à cause de cette vision, il a écrit un livre. Et si vous avez l'opportunité d'acheter ce livre aussi, il faut acheter le titre de ce message. Et ce livre, c'est l'ultime assaut. La plupart d'entre vous n'êtes pas intéressés, sinon vous allez écrire. Dans cette révélation, vous allez trouver que il parle beaucoup sur comment il a vu une grande armée de démons qui venaient attaquer l'église. Je crois que j'ai partagé beaucoup avec vous, mais il n'y a pas de problème. Je vais partager encore 100 fois si c'est nécessaire. Dans le rêve, dans la vision, il a vu les armes que les démons portaient qui venaient pour combattre l'église. Et la première arme, c'était l'épée appelée l'intimidation. En tant que pasteur, vous voyez, quand on dit intimidation, quand les gens essayent de vous rendre peur et vous jouez un jeu avec les gens et les gens sont mieux que toi, quand tu les vois, tu commences à être intimidé parce que tu sais qu'ils peuvent jouer plus que toi. Donc, la plupart du temps, on n'arrive pas à avancer dans le ministère parce qu'on pense qu'il y a des gens qui sont vraiment puissants. Donc, l'intimidation, des fois, nous sommes intimidés par le gouvernement. Une fois, j'étais en une réunion et je parlais et puis quelqu'un a dit quelque chose. Et quand la personne parlait, je voyais que la personne était en train de m'intimider. Donc ça, c'est l'une des choses que le diable fait pour nous intimider, pour nous effrayer, et afin de ne pas... Il y a un officier de gouvernement qui disait des choses et je lui ai dit, je travaille avec qui? Tu travailles avec qui? Si tu ne me dis pas à qui et pour qui tu travailles, je ne vais pas te répondre. Et il dit, je travaille pour le gouvernement. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que tu travailles pour le gouvernement. Est-ce que tu es un espion ou quoi? Peut-être alors que je suis en train de parler, tu es en train d'enregistrer. Il ne faut pas venir passer par le derrière pour venir me piéger. Donc, toutes ces choses-là, ouais, ce sont des mauvais esprits qui essayent de nous arrêter dans notre piste. Et puis, il y avait aussi des lances. La lance était la trahison. Et la trahison est un mot pour la déloyauté. Quand on dit trahison, on dit quelqu'un qui est à côté de toi, quelqu'un qui est proche de toi. La trahison, c'est quand quelqu'un est loyal envers toi, mais la personne tourne son dos et puis la personne te surprend en faisant des choses contre toi. Et nous avons beaucoup de ces choses-là dans l'église aujourd'hui. Quand vous avez des gens dans l'église, tu penses que ce sont les gens qui sont les membres de l'église, mais ils ne sont pas. Ils sont assis avec toi, ils t'écoutent parler et tu discutes des choses avec eux et ils tournent leur dos contre toi. C'est une attaque du diable contre l'église. Et puis, il y avait aussi des flèches. Vous voyez, donc, il y a ce qu'on appelle l'intimidation. C'est l'épée de l'intimidation. Et puis, nous avons les lances. Et il y avait quatre flèches, l'accusation, Et puis, ceux qui, l'accusation cherchait des fautes. Et vous voyez, dans ces choses-là, on ne voit pas la sorcellerie. Et tout ce que je viens de lire là, tout ce que il n'y a pas de puissance d'occultisme, il n'y a pas de juju, il n'y a pas des esprits, des esprits de sirènes de nuit et sirènes de la mer. Ce sont, il n'y a pas des choses dedans. Ce sont les choses qui sont en train de détruire l'église. Et voici la raison pour laquelle je suis en train de prêcher sur ça. Il dit, la partie de la vision qui m'a choqué, c'est que cette foule de démons ne galopait pas sur des chevaux, mais ils galopaient sur des chrétiens. La plupart d'entre eux étaient bien habillés, étaient bien respectables, avec l'apparence des gens qui sont bien éduqués et respectés. Ils étaient des gens de tous différents domaines de la vie. Et la stratégie primaire du diable, c'était de causer des divisions à chaque niveau de relation. Les églises contre les églises, des congrégations contre leurs pasteurs, les femmes contre leurs maris, et même les enfants contre les parents, et même les enfants contre eux-mêmes. Et en continuant, il dit, quand je regardais derrière l'armée, j'ai vu un entourage de l'accusateur lui-même et j'ai compris sa stratégie et j'étais étonné que sa stratégie était très simple. Il savait qu'une maison divisée en elle-même ne peut pas se tenir et cette armée représentait l'attentat d'amener une division dans l'église afin que l'église tombe complètement de la grâce. Au-dessus des prisonniers, il y avait des nuages noirs avec des voitures appelées des dépressions. Et ces voitures-là, ils s'atterrissaient sur des prisonniers et ils vomissaient sur eux. Et ces vomis étaient la condamnation. Tu vois, quand tu condamnes les gens, tu ne fais pas l'œuvre de l'Éternel. Parce que nous sommes déjà condamnés dans une certaine manière. On ne doit pas dire à quelqu'un, on n'a pas besoin de montrer à quelqu'un qu'il est pécheur. Et on n'a pas besoin de montrer à quelqu'un qu'il a des fautes. Qui ici est au courant qu'il est déjà bizarre? Qui est au courant de ça? Bien. Donc quand vous avez un démon qui vient te condamner, vous comprenez? Vous êtes en train d'entrer en profondeur dans la dépression. Et quand je regardais, et ces prisonniers croyaient que cette condamnation, ce vomissement qu'on appelait la condamnation, venait de l'Éternel. Et ils croyaient qu'il était en train de marcher pour l'Éternel. Ceux qui étaient frappés par la calomnie ont commencé aussi à frapper les autres avec la calomnie. Et ceux qui faisaient dans ceux qui bavardaient aussi ont commencé à bavarder. Quand un chrétien était frappé par l'une des flèches de l'accusation et de la calomnie, peut-être un pasteur, un membre de l'église est frappé par la flèche de l'accusation, un démon de l'amertume ou de colère volait pour se suspendre sur la flèche et ce démon commence à uriner et déféquer sa poison sur le chrétien. Et puis, à la fin de tout, quand ils étaient en train de se... Il dit, quand on est arrivé au niveau appelé l'unité des frères, et aucune flèche de l'ennemi ne pouvait nous atteindre. Quand nous sommes arrivés au point, les flèches ne pouvaient pas nous atteindre. Donc, vous voyez que la stratégie du diable n'est pas quelque chose de grand. Regardez Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Et dit, verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les esprits de sirène, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les mamiwata du diable. On lit encore. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de vous pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses, les déceptions, les tricheries du diable. Mesdames et messieurs, je suis là pour exposer les ruses du diable dans votre vie. Je suis là pour vous exposer les tricheries, les diables. Je parlais avec l'évêque Duncan Williams et on était en train de discuter quelque chose et je lui disais que quand il était venu m'aider pour lancer le livre Loyauté et de loyauté, il a dit quelque chose. Il a dit, si je devrais parler de la loyauté, je serais émotionnel. Il a dit, si ce n'était pas à cause de la loyauté, il devrait avoir 50 000 personnes dans son église à Accra aujourd'hui. Mais il n'a pas. Il y a des années, je me souviens, quand il avait commencé des branches dans son église. Il était la première personne de commencer les branches à Dansouman, Teshinungwa, Madina, et puis un peu moins d'un an. Un, deux, quelque chose s'est passé. Et puis il a laissé cette église-là. Et il a laissé tout le monde partir. Si ces églises étaient toujours là aujourd'hui, les églises qui étaient implantées il y a 10 ans, vous pouvez imaginer la taille et la croissance de combien de personnes, combien de bénédictions seraient en train de couler par cette église. Mais le diable sait qu'il peut maintenant diminuer notre force en nous divisant en pièces. Il va dire, je vais les séparer un peu et il va nous donner des choses qui semblent, des choses qu'on peut bien justifier. Les accusations semblent justifiées. Quand tu bavardes sur quelqu'un, c'est comme si tu as une raison pour parler. En fait, rien n'est doux comme bavarder sur quelqu'un. Quand vous causez avec un ami, qui est d'accord avec moi? Quand il y a une histoire, oh mon ami, j'ai une information de l'intérieur. Je sais, il y a des gens qui ont toujours des informations de l'intérieur. Ils peuvent te dire comment la chose s'est passée avant que la chose ne s'est passée. Amen. Alors, nous nous divisons. Nous nous blessons. Alors que nous jetons les flèches de bavardage et l'accusation, la calomnie, pour toutes les bonnes raisons que nous avons. Et l'Église commence à se briser en petits morceaux. L'esprit de ceux qui font semblant, des prétendants. Notre pays est plein de gens qui font semblant. Il n'y a personne qui va sortir pour aller faire une campagne politique et les gens ne vont pas sortir pour assister. Il faut seulement nommer la partie politique, même si tu appelles la partie politique de poison, PPP, les gens vont venir. Ils vont dire, hey, c'est toi qu'on cherche. Nous sommes fatigués de ces personnes. Ils sont comme ça. C'est toi qu'on attendait. Sans toi, on ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. Et est-ce que vous êtes ici ou bien vous êtes allé à la maison? Et ils vont te dire beaucoup de choses. Mais c'est l'esprit de la prétence. Et quand il s'agit de voter maintenant, le jour de vote, vous serez étonnés. J'ai pitié des politiciens quand je les vois gaspiller leur argent. C'est pourquoi ils sont désespérés pour prendre le pouvoir. Parce qu'ils essayent de regagner l'argent qu'ils ont perdu toutes ces années. Afin qu'ils pouvaient aussi signer des contrats pour 16 millions de dollars. Et puis maintenant, ils vont maintenant élever ça à combien? 20 millions. Afin de partager les 4 millions. Et puis, ils vont signer des contrats pour les routes. Ils vont prendre des grands pourcentages. Et puis, ils vont partager ça. Ils vont construire des maisons dans d'autres noms. Ouvrir des comptes dans d'autres nations. Et ils vont dire, les pasteurs doivent payer les taxes. Amen.
Amen.
Mais, mesdames et messieurs, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. La prétence doit quitter l'église. C'est pourquoi quand les gens viennent ici, ils disent, évêque, tu sais, oh mon Dieu, tu es l'homme de Dieu pour le moment. Je dis dans ma tête n'importe quoi. Je ne dis pas ça ouvertement, je dis ça c'est de n'importe quoi. Quand les gens viennent de me louer, je jette ça quelque part. C'est comme tu mets de l'eau sur la plume d'un oiseau. Vous connaissez que les oiseaux ne se trompent pas par l'eau. Je parle des oiseaux. Tu peux verser l'eau sur eux, mais ils ne se trompent pas parce que la plume, quand l'eau tombe sur la plume, ça glisse. Ça glisse. Tu peux voir les oiseaux nager dans l'eau, mais l'esprit de la prétence doit quitter l'église. L'esprit de cette prétence-là, c'est la flèche de la trahison. La flèche de la trahison. C'était un seulement, une lance. Je suis étonné de voir ça dans le livre. Quand j'ai vu ça, j'ai mis le livre de côté et j'ai commencé à réfléchir pour 3 jours. J'ai dit, waouh, ça c'est une révélation pour quelqu'un. La Bible dit que les prophètes parlent et nous devons juger. Quand j'ai lu ce que le prophète disait et j'ai commencé de réfléchir, j'ai dit, tout ça c'est trop réel. Quand les gens deviennent les orangs, regardez à Jésus avec Judas. Savez-vous que personne ne savait que c'était Judas qui allait trahir Christ? Il faisait partie de leur association. Chaque fois, Jésus disait, un parmi vous va me trahir. Les gens croyaient que, bon, Jésus a dit beaucoup de choses qu'il n'avait pas noté. Il n'acceptait pas ça. Jésus a dit, je vais mourir sur la croix, après 3 jours, je vais me lever. Il n'y croyait pas dans toutes ces choses-là. Donc quand Jésus a dit, un parmi vous est un diable, il a dit ça en Jean chapitre 6. Il a dit, je vous ai choisi, mais un parmi vous est un diable. Jusqu'au premier jour, 19h, ou bien, oui, 19h, Jésus a dit encore, je mange avec vous et un parmi vous va me trahir. Et à ce point, Pierre s'est fâché, il a dit, ah, mais Jésus même là, qu'est-ce qu'il raconte? Nous sommes tous ensemble ici et il dit qu'un parmi vous, s'il y a un diable, il faut le dire. Mais ils avaient peur de demander le Christ. Mais ils savaient que il y avait quelqu'un qui était proche de Jésus. Donc ils ont parlé à Jean, ils ont dit il faut venir voir quelque chose. Ils ont dit, et Jean, il faut demander au maître, qui est cette personne qui va te trahir là? Qui est ce Satan dont tu parles? Pourquoi? Parce que l'esprit de la prétence, il te fait sur le flot avec tout le monde, comme si tu fais partie. Tu parles comme si tu es avec nous. Tu es si loyal. Tu fais partie de nous. Mais ton cœur est loin de nous. Tu prétends être avec nous. Tu dis oui, monsieur. Oui, pasteur. Oui, évêque. Oui. Mais ton cœur est quelque part. Donc, quand tu tournes et tu vois des pharisiens, tu commences à négocier avec les pharisiens pour nous vendre. Tu reviens et puis tu souris avec nous. Donc, Jésus a dit, il faut me regarder, je veux faire quelque chose. Il a dit, Judas, donne-moi le pain. Vous voyez comment vous nourrissez vos enfants à la maison? Il a dit, Judas, il faut venir. Oh, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Jésus avait fait des choses qu'il ne comprenait pas. Il a lavé leurs pieds. Donc, Jésus a dit, ouvre ta bouche. Et quand Jean a vu ça, il a dit, hey, c'est pas possible. Parce que Jésus a dit, la personne à qui je vais, dans la bouche dans laquelle je vais mettre du pain, là, c'est lui qui va me trahir. Et ce sera qui? C'est Thomas, c'est Bartholomew, c'est André, c'est Jacques. Donc, il regardait. Parce que jusqu'à jeudi, il ne savait pas tous qui allait trahir Jésus-Christ. Parce que tout le monde là prétendait, faisait semblable. La prétence est trop. Nous sommes en train de créer une société des hypocrites. Dans notre pays, nous l'avons. Les gens qui prétendent, c'est trop. Et nous devons nous lever pour dire que ça, ce n'est pas la vérité. Il y a des gens qui me disent, oh, il faut dire des bonnes choses au gouvernement. Écoutez, je suis opposé aux gens qui brisent les murs de l'église. Je ne peux pas prétendre pour dire des bonnes choses. Si tu me demandes ce que je pense, je dis, je suis sûr de quelque chose. Je suis totalement opposé aux gens qui attaquent les églises. Ça, je peux vous dire la vérité, je ne suis pas pour eux. Notre prétence est trop et c'est dans l'église. C'est pourquoi les gens disent, ah, évêque, nous sommes avec toi, mais vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Vous ne serez jamais jusqu'à jeudi 21h30. Tu travailles quelque part, ton patron sort et puis les choses que vous dites derrière le patron, dès que le patron revient, dit, ah, madame, sois là, bienvenue, madame. Quand tu es sorti, monsieur Intel est appelé, hein. Il a dit qu'il te salue, merci. Mais quand tu mets le pied dehors, quand les gens amènent des contrats, on m'a dit, écoutez, cette personne-là, s'il travaille pour toi, là, il va faire 500. Moi, je vais faire ça pour 150. Tu dis, ah, 150. Le monsieur-là, il prend trop d'argent. Toutes ces choses-là, c'est moi qui fais. Hein? OK, d'accord. Oh, il faut amener ça chez moi à la maison, 21h. Je vais tout faire pour toi. Et les gens viennent à l'employé. Et quand ton patron vient, tu dis, ah, patron, aujourd'hui, personne n'est venu. On n'a pas de client aujourd'hui du tout. Mais par la grâce de Dieu, ça ira. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, vous voyez, le livre de l'évêque, là, nommé le clameur, là, c'est ça qui va nous aider. Tu es un menteur, tu es un judas, tu es un... À moins que, par une connaissance, par parole de connaissance, on ne saura jamais. Une fois, j'étais avec un pasteur et j'étais avec un groupe de ministres à Accra. On était en train de faire une réunion dans le bureau de l'évêque Duncan Williams. Ça fait 7 ans ou 8 ans quand on avait fait la réunion. On est allé quelque part. J'étais avec un autre pasteur et soudainement, le pasteur a dit quelque chose. Et ce qu'il avait dit, ce n'était pas bon du tout. Il a dit ça concernant l'évêque Duncan Williams. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu peux dire quelque chose comme ça? Après que nous avons tous, dans une réunion, nous avons tous parlé ensemble, personne n'a rien dit de mauvais. Et tu viens de dire ça? J'ai dit, non, ça c'est mauvais. Il était plus grand que moi, mais moi, je lui ai dit la vérité. À partir de ce jour-là, j'ai perdu un ami. La dernière fois aussi, j'étais en train de faire quelque chose et puis il a dit quelque chose de très mauvais de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et il y a des gens, leur bouche là, sont loin pour dire des choses terribles. Donc je me suis dit, quand il avait dit ça, je n'ai pas attrapé ce qu'il a dit. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Donc, j'ai dit à la personne de qui il a dit ça, parce que je travaille avec la personne. Donc, j'ai appris à la personne que la loyauté ne retient pas des informations. Et après, il a entendu, il c'était très mauvais. Il est allé même se demander. Et maintenant, il a commencé à m'attaquer. Et je lui ai dit, tu veux m'attaquer? Il sait, tu veux, il faut dire quelque chose encore. Je vais aller dire. Oui. Et j'ai perdu un ami. Mais au moins, j'ai un petit cercle de gens qui sont loyaux. C'est mieux que d'avoir beaucoup de personnes et on ne sait pas qui va tirer une lance pour nous tuer un jour quand on tourne le dos. Quelqu'un est venu vers moi et la personne a dit, « Hey, regarde-toi, tu es béni dans ton église. Tu as tous ces bons pasteurs. Ils sont tous loyaux. Tous ces gens-là, les gens comme Eddie, les gens comme It. » Et il mentionnait les noms des pasteurs dans l'église. Regarde toutes les bonnes choses que vous avez dans l'église. Et moi, j'ai tous ces diables-là autour de moi. Il parlait de ses pasteurs assistants, qu'ils étaient tous des diables. Si tu appelles tes associés, les diables. Et puis toi, tu es qui? Toi, tu es le père des diables. Tu es le DG des diables. Parce que si tu n'as pas un esprit loyal, personne... Ouais. La loyauté, il y a quelque chose qui concerne la trahison. Tu te trouves dedans avant que tu ne te rendes compte que tu es dedans. Vous comprenez? Je dis encore. Il dit, la trahison t'implique avant que tu ne te réalises que tu es impliqué. C'est pourquoi il faut rendre compte que les gens ont peur de parler. Vous voyez, ils ont peur de parler d'une manière mauvaise quand ils sont au courant que tu es loyal à une personne. Ils vont dire, si je ouvre ma bouche, je dis ça ici, elle va aller dire. Tuons l'esprit de Judas dans l'église. La trahison, les mensonges et prétendent. Le gars était parfait. J'ai dit, jusqu'à jeudi nuit, personne ne savait. Il a dit à l'Éternel, je devrais aller à la GAB pour retirer de l'argent parce que je n'ai pas pu faire un retrait à la banque. Jésus a dit, oui, fais vite, il faut aller. Mais Jésus savait qu'en sortant, il ne partait pas à la GAB, il partait pour appeler les pharisiens. Qu'est-ce qui est en train de détruire l'église? C'est la loyauté, des loyautés. Amen. C'est pourquoi j'ai dit cela pour vous dire, il faut avoir cet esprit. Il faut dire, voici ce dont je crois. Si tu ne m'aimes pas, restez où vous êtes. Mais moi, je crois en ceci et je crois en ça. Il faut te lever pour déclarer ce que tu crois, en ce que tu crois. Ce en quoi tu crois. Si tu travailles quelque part et puis les gens, tout le monde ne croit pas dans telle chose, tout le monde dit des choses concernant le patron, tu dois te lever pour dire ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais dire ça au patron. Si vous voulez, il faut me demander. Oui. Quelqu'un, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, pasteur, telle personne a dit ça et ça et ça. Et tu peux lui dire que c'est moi qui ai dit, mais je sais que je vais perdre un ami. Mais petit à petit, nous serons en train de chasser cet esprit. Regardez les églises en ville. Regardez à Lighthouse. Si tu es un homme d'affaires, il faut bien regarder l'église. Si nous avons des branches en 20 pays, dis-moi, quelle organisation aujourd'hui se trouve dans 20 pays et ils sont stables? Moi, nous, on ne court pas de crise en crise. Je ne veux pas me vanter de l'église, mais par la grâce de Dieu, il nous a bénis avec la stabilité. Et voici la raison pour laquelle nous avons les yeux ouverts. Dès que nous voyons une société, on dit, mon frère, on n'a pas ça ici. Nous avons l'esprit loyal. Et heureux celui qui apprend l'esprit de loyauté. Vous voyez, la loyauté, on voit la loyauté quand il y a des crises. Vous serez testé pour ce en quoi tu crois. Ne pense pas que c'est parce que quelqu'un est parfait, c'est pourquoi tu seras parfait. Non, tu peux être parfait, tu peux être fidèle jusqu'à la fin. Ça, c'est la fidélité, la loyauté. Donc, je veux vous dire quelque chose. Si vous êtes ici et vous pensez que quand vous ouvrez vos bouches pour parler, pour calomnier, écoutez, souvenez-vous que un démon est venu pour galoper, pour t'utiliser, pour galoper, pour détruire l'église. Regarde à ton affaire. La raison pour laquelle ton business ne grandit pas, c'est parce que tu n'as pas un esprit loyal. C'est rare de me voir parler de mon pasteur d'une manière négative. Si j'ai quelque chose que je dois discuter avec eux qui va les édifier, c'est ça. Tu vas me voir me parler, mais pour me voir dire qu'un de mes pasteurs est un diable, non. Si je veux que mes pasteurs soient loyaux, moi aussi je suis loyal. Moi, je crois dans tous mes pasteurs. Je suis prêt à mourir pour eux et ils savent. N'importe quel problème, quand ils se trouvent, moi, je serai là pour prendre des photos avec eux. Il faut faire ça. Oui, ma loyauté pour eux, ça passe jusqu'à ce niveau-là. Amen. Et tu vois, Pierre, Jésus était engagé pour tout le monde. Ils ont vu ça. Et ils étaient aussi engagés jusqu'à la fin. Ils sont morts pour ce en quoi ils croyaient. Si tu veux que tes associés soient loyaux, si les gens t'écoutent, disent des mauvaises choses de votre pasteur, mauvaises choses de cette personne, ils se rendent compte que c'est une culture, la culture de bavarder, de calominer. Et dès que tu tournes ton dos, eux aussi commencent à parler. Maintenant, tu te demandes pourquoi tu ne peux pas avoir beaucoup de boutiques, beaucoup. Des fois, quand je regarde les gens qui ont des petits business, les business n'arrivent pas à croître. Certains business peuvent seulement croître si tu as des branches. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas croire? Parce que l'esprit de loyauté n'est pas là. Je vois la croissance venir dans ton business. Tu dois avoir des gens, quand tu tends ton dos, tu peux te reposer. Aujourd'hui, les gens ont peur. de laisser leur business parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer un jour. Mon papa était propriétaire d'un hôtel. Un jour, j'ai dit à mon papa, j'ai un ami, il n'avait pas de diplôme universitaire. Il n'a pas... La seule chose qu'il ne va pas mentir, il ne va pas voler. Le jour quand mon père... dans ces jours-là, l'hôtel, quand il entrait, les gens qui géraient l'hôtel, ils lui disaient qu'on a aujourd'hui 10 000. Le jour où mon ami là est venu, ils ont commencé à voir 150 000 par nuit. Le monsieur n'avait pas des expertises. Je dis aux gens, il faut avoir une seule personne qui est loyale et puis tu vas voir un changement. Tu peux sortir de ta boutique et puis tu peux aller te reposer. Si tu n'as pas quelqu'un qui est loyal, dès que tu mets pied dehors, ils vont vendre les choses qui sont dedans, ils vont aller racheter, mettre la chose dedans et puis ils vont prendre tout, les bénéfices.
Let's say 200,000, then they will go and buy at the wholesale price 150,000, put the paint back in the shop.
Si tu as une boutique, tu vends la peinture.
When you come,
tu mets pied dehors. La personne qui est là peut vendre la peinture. Après, si c'est 200 000, il va vendre ça à 200 000. Après, il va prendre le 50 000. Utiliser les 150 000 pour acheter une nouvelle peinture et venir et déposer ça dans la boutique. Quand tu viens, il te dit que personne n'est venu acheter. Les sœurs, vous tombez souvent dans le piège de bavardage. Est-ce que c'est vrai? Parce que les femmes ont deux besoins quotidiens. Un, pour les hommes, comme les hommes manger, et l'autre, c'est de parler, Ils ont un besoin pour parler, ils veulent parler avec quelqu'un. C'est pourquoi, si tu es une femme, ton ami intime, je ne dois pas généraliser ça. Des fois, vous avez des amis qui sont chrétiens. Parce que c'est comme si ton mari à la maison, quand tu parles, il n'a rien à contribuer. Mais assure-toi d'avoir des amis qui sont des chrétiens, qui parlent de bonnes choses. Sinon, tu seras plus qu'un journal. Et j'ai entendu ça. Ils ont dit, je ne savais pas que... Ils parlent, les accusations. Ils cherchent des fautes. Ça doit mourir. Il faut la regarder. Et elle est enceinte. Elle est venue à l'église. Et je sais que ce n'est pas la première fois. Regarde à sa ventre, grosse comme ça. Et elle n'est pas mariée aussi. Ferme ta gueule. Toi, tu indexes ton doigt. À chaque fois que tu indexes un doigt, tu ne sais pas que les autres trois aussi te regardent. Peut-être tu n'as pas eu la chance. Si c'était parmi vous, avez eu la chance. Ce n'est pas la première fois. Si vous étiez dans la place de cette sœur, tu devrais avoir beaucoup d'enfants dans toutes les régions de Ghana. Apprendre à fermer ta bouche. Il faut apprendre à dire je n'ai pas de commentaires. Un jour, j'ai regardé quelque chose sur à la télé et j'étais en train d'apprendre quelque chose sur la diplomatie et j'ai constaté que le président Clinton, quand on lui demande certaines questions, il dit je ne peux pas faire de commentaires sur ces choses-là à ce moment-là. Je n'ai pas de commentaires à faire sur ça. Quand les gens viennent, ils disent viens nous aider, on va bavarder. Dis à la personne, je n'ai pas de commentaire à faire à ce point-là. Dis-lui, je ne peux pas faire de commentaire sur ça. J'entends que l'homme de Dieu il a divorcé son épouse là. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je n'ai pas de commentaire. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas de commentaire. Je n'ai pas de commentaire à faire à ce moment-là. Je n'ai pas de commentaire. Je ne peux pas faire de commentaire sur ça. C'est très simple. Vous savez ce que Papa Hagin a dit? Il dit qu'il est allé à une convention et à la convention, il y avait un pasteur qui avait commis un péché. Et quand le pasteur avait commis le péché, le pasteur principal de l'église est venu parler de ça et il a réprimandé la personne ouvertement. Vous m'écoutez? Le lendemain, ils ont demandé à Papa Hagin qu'est-ce qu'il pensait de ça. Et il a dit, oh, il était là et il a entendu. Donc, on lui avait demandé, qu'est-ce que tu penses de cela? Il a dit, oh, je suis d'accord avec tout ce que l'homme avait dit. Il n'avait pas dit qu'il n'avait pas de commentaire. En vérité, en fait, le mot qu'il a utilisé, c'est que je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, il est allé à la maison la nuit. Il dormait. Il avait éteint toute la lumière et il dormait. Soudainement, une lumière s'est éclatée dans sa chambre. Vous souvenez quand Paul a rencontré l'Éternel sur la route à Damas? Il dit il pouvait voir la table, il pouvait voir le lit, la lampe, il pouvait voir tout. C'est comme si le soleil. Et une voix est sortie et la voix a dit, qui es-tu pour juger le serviteur de l'autre? Parce que dans l'après-midi, il avait dit que non, il est d'accord. On lui dit, qui es-tu pour juger le serviteur de l'autrui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui pour juger le serviteur de l'autrui? Une voix est sortie, tu es qui? À partir de ce jour-là, il a eu peur. Il s'est repenti jusqu'à partir de ce jour-là, il ne dit rien. Sur quelqu'un, il ne dit rien. Pas de commentaire. C'est pourquoi quand tous ces scandales étaient arrivés aux États-Unis, tu vois, les gens disaient ça et ça et ça. Papa Hagin, il n'a rien dit, pas de commentaire. Il n'avait rien à dire, pas de commentaire, pas d'opinion. Il était là. Il fait ton travail, son travail. Il faut devenir un chrétien sans commentaire. Je parle de sans commentaire. Il y a des gens qui vont dire, ces personnes-là, bon, ils disent de ne pas faire de commentaires. Donc, toi, il faut prendre ça comme s'il n'y a pas de commentaires. Tu as déjà. Ça veut dire que tu es déjà parti. Lève les mains et dis, je n'ai pas de commentaires à faire à ce point-là. Il faut écrire ça dans ton livre. Je n'ai pas de commentaires à faire à ce point-là. Quand le diable vient et dit, je demande une permission de venir venir m'asseoir sur toi pour une galope. Dis, je n'ai pas de commentaires. Betty, je veux que tu écris ça dans ta Bible. Écris ça dans ta Bible. Tu as une note? Un agenda? Je n'ai pas de commentaire à faire concernant ta petite Bible et puis ton agenda. Levez les mains, remerciez l'Éternel parce que vous avez l'esprit de loyauté. Oh oui, Seigneur, restez debout alors que nous clôturons ce matin. Alléluia. I wanna be more like Jesus. I wanna be a vessel you work through. I wanna be more like you. Oh Jesus, Père, nous te rendons grâce pour cet après-midi. Parle à nous. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Mettez vos mains sur vos cœurs. Seigneur, donne-nous l'esprit de loyauté, l'honnêteté à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les têtes sont baissées, tous les yeux sont fermés. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Peut-être quelqu'un t'avait invité à l'église, mais dans ton cœur, tu sais que tu es loin de l'Éternel. Tu tu ne connais pas Christ comme ton sauveur. Pasteur, priez pour moi, je ne veux pas aller en enfer, je veux être né de nouveau, je veux connaître Jésus. S'il te plaît, aide-moi ce matin. Si tu es ici comme ça, je veux que tu lèves ta main, je vais prier pour toi. Lève tes mains, je vais prier pour vous. Je vois tes mains, je vois tes mains. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont derrière, partout. Si vous avez levé les mains, je veux que vous venez devant. Venez devant, je vais prier pour vous. Venez de derrière. Venez, venez tous. Venez vous tous.
There's room at the cross for you. Though millions have come, though millions have come, there's still room for God. Yes, there's room.
Dis après moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Aujourd'hui, je viens à toi. Je m'humilie devant toi, comme je suis. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie, au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté ce message. Visitez dagiwamears.org aujourd'hui pour plus de messages audio et vidéo, informations sur les événements à venir et beaucoup plus. Assurez-vous de vous abonner à ce podcast pour recevoir de nouveaux messages chaque semaine. Et souvenez-vous que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour.